RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Arnaud Souk.
32-16 et hashtag RMC Live et Direct Studio via l'appli RMC Sport pour être avec nous ce soir. L'after jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Ali Benarbia en simultané sur RMC à la radio, à la télé sur BFM Sport. Vous pouvez même aller sur rmcsport.fr, vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. Alors on débrief évidemment cette rencontre, ce match nul en ouverture de la 37e journée de Ligue 1 entre Guingamp et l'Olympique de Marseille. Un match complètement fou, si vous ne l'avez pas vu, débrouillez-vous pour le revoir. Franchement c'était un grand régal, du grand spectacle ce soir. 3 buts partout entre ces deux équipes. Le scénario, Marseille menait 2-0 avant de se faire rejoindre à 2-2. Guingamp a même mené 3-2 avant que Thauvin égalise en toute fin de rencontre. 3 buts partout.
Et les Marseillais ont des occasions après le 3-3.
Et les Marseillais ont des occasions.
Ont des occasions
effectivement à 10 et même à 9. On va revenir justement sur l'un des faits de cette rencontre, le deuxième pénalty qui a provoqué l'expulsion de Mandanda et qui a permis à Guingamp de mener 3-2. Juste avant ça, je voudrais vous rappeler les résultats de Ligue 2. Châteauroux-Brest, 2 partout. Nancy-Orléans, 3-0. Valenciennes est allé s'imposer sur la pelouse du Gazélec, 4-3. Lens a battu Auxerre 2-1. Clermont Foot et Paris FC ont fait match nul 2-2. Bourg-en-Bresse a battu Sochaux 2-1. 3-0 pour Quevilly-Rouen face à Lorient, 2-2 entre Reims et Nîmes et entre Ajaccio et Niort, et 2-0 pour Le Havre face à Tours. C'était la 38e journée. La conséquence, on connaît le classement général final de cette Ligue 2. Reims, qui est champion, ça on le savait depuis quelques journées déjà, 88 points devant Nîmes, deuxième avec 73 points. Ces deux équipes sont promues pour la troisième. Si tenté qu'il y a un troisième promu en Ligue 1, ça va se jouer dans des barrages. Ajaccio, l'AC Ajaccio termine troisième et affrontera le vainqueur du match entre le quatrième et le cinquième, donc c'est-à-dire entre Le Havre et Brest. L'AC Ajaccio jouera ce match à domicile et le vainqueur justement de cette rencontre affrontera le 18e en match aller-retour, le 18e du classement de Ligue 1.
Brest va jouer au Havre.
Voilà.
Et le gagnant
ira jouer à Ajaccio.
Qui jouera un aller-retour
contre le 18e.
Contre Strasbourg.
Voilà, contre Strasbourg ou contre
l'équipe
contre
Toulouse, Gilbert,
ou contre Lyon.
L'équipe de Gilbert.
On verra bien. Et tout en bas du classement, Quevilly-Rouen et Tours sont d'ores et déjà relégués en National. Bourg-en-Bresse jouera un barrage face au troisième de National, en l'occurrence Grenoble. C'est Béziers qui sera le premier.
Les Biterrois.
Avec le Red Star.
Les Biterrois.
T'es Biterrois ou t'es Narbonnais, toi?
C'est pas oui, mais bon, c'est à côté.
Ah oui, c'est pas le même département.
Mais en rugby, c'est chaud. Il fait de la récup un peu comme un
peu. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, quoi.
Il essaie de se placer. Ça fait plaisir. On n'a pas beaucoup d'équipes à ce niveau-là. Bien d'avoir une petite équipe.
Messieurs, revenons si vous le voulez bien sur cette rencontre et ce 3-2 entre l'Olympique de Marseille et Guingamp, entre Guingamp et l'OM plutôt. On a parlé de la performance de Florian Thauvin, notamment auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Très bonne performance, quoi qu'on en dise. D'ailleurs, vous êtes nombreux sur le hashtag RMC Live à nous dire que franchement Thauvin a quand même
plutôt
fait une belle rencontre. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce fait de jeu finalement. Alors, il y en a eu plusieurs, mais sur ce deuxième penalty en faveur des Marseillais, le penalty du 3-2 finalement pour Guingamp, inscrit par Briand, et surtout à la fois penalty et double peine puisque peine, Mandanda, le gardien marseillais, est expulsé.
Alors, la règle, c'est quoi la règle? Alors, c'est pour le rouge, c'est qu'il faut qu'il y ait un acte d'anti-jeu.
Il faut qu'il y ait un acte d'anti-jeu ça, manifeste. Voilà. C'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, reprocher à un défenseur d'avoir tenté de tacler le ballon.
Bah oui.
Tu peux pas reprocher à un gardien d'avoir tenté d'essayer de prendre le ballon. Tu peux reprocher et mettre un carton rouge à quelqu'un qui te tire le maillot. Voilà ce que dit, en gros, la règle.
Alors, après,
en l'interprétant, on peut se dire que la double peine est un petit peu compliquée. Est-ce que déjà il y avait pénalty pour vous?
Oui.
Oui.
Bah oui, non.
Donc
non,
ça ne fait pas de doute.
Pénalty, à pénalty. Mais Mandanda ne cherche pas à prendre les pieds de Jimmy Briand parce qu'il sait qu'il n'a pas le ballon. Dès le début, il veut prendre le ballon et puis Briand la pousse. Pénalty. Mais moi, je mets carton jaune.
Ouais.
Je mets carton jaune.
Après, c'est toujours pareil à vitesse.
Mais c'est les règles. C'est les règles. Placé.
J'ai pas trop d'avis là-dessus, quoi. Si l'arbitre a...
Non, on dirait qu'il s'oblige.
Plus, donc voilà.
On dirait qu'il les oblige aux arbitres de siffler pénalty et carton rouge. Voilà.
En tout cas, ce pénalty obtenu par Clément Grenier, de mémoire, sur une contre-attaque. Mais en lumière également.
C'est Briand. C'est Briand. Le troisième, tu parles du troisième.
Le troisième a été inscrit par Briand,
mais c'est Briand qui
l'obtient.
C'est les deux.
En tout cas, mais en lumière, la fébrilité défensive des Marseillais. On parlait en filigrane tout à l'heure de Sertic, Grégory Sertic, qui était titulaire pour la troisième fois depuis le début de la saison dans la défense de l'Olympique de Marseille et qui a franchement été extrêmement décevant ce soir.
Sur le pénalty, il est clairement fautif. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire.
Messieurs, on a Antoine Camboré, l'entraîneur guingampé, en direct depuis la salle de conférence de presse de Rodourouf.
Une grosse cylindrée. Cette équipe de Marseille, c'est...
Alors, si on a le son, ça sera même encore mieux. Visiblement, on ne l'a pas.
Donc,
on a l'image, mais on n'a pas le son.
L'un dans l'autre, je suis
Antoine Camboré, l'entraîneur de Guingamp.
On peut pas tout avoir.
On peut pas tout avoir. Bon, écoute, on entendra. On revient dans un instant. Que disait-on?
Je trouve que l'action qui amène le troisième pénal, le penalty du troisième but de Guingampé. Oui. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, Sarchik, en fait. Pourquoi il est positionné comme ça sur le terrain? Qu'est-ce qu'il essaie de faire?
C'est-à-dire, il est derrière Briand. Et il veut passer devant.
Mais c'est catastrophique.
Briand est assez intelligent juste de le pousser légèrement et il veut quand même tacler. C'est l'erreur à faire.
C'est ça, ouais.
C'est l'erreur à faire.
Il se jette comme un bleu.
Parce que ça permet à Jimmy Briand de courir mais de prendre tout son temps pour fixer Mandanda. Alors que si Briand, du coup, si Sertic ne se jette pas et même en vitesse reste à côté, il peut le gêner.
C'est juste de le gêner.
Mais reste derrière, de toute façon.
Non, mais ce qu'il fait, c'est incompréhensible. Je sais pas ce qui lui passe par la tête. Bon, après, on va pas l'accabler.
Non, mais ça change tout le match.
Il a beaucoup joué, mais il fait, enfin, j'insiste là-dessus, dès le début du match, tu sens qu'il est hyper fébrile. Autant le petit Bouba Camara à côté, il a encore fait un bon match. C'est un très bon jeune, c'est un très bon joueur. Il est prometteur. Il est, en plus d'être bon défensivement, il est très à l'aise techniquement.
Ouais, il est sûr de lui.
Il manie bien la balle, il a une bonne relance, mais Sertic, c'est pas lui faire. Et même bon. Fait dire, c'est pas faire un cadeau à Camara que de lui faire jouer à côté d'un joueur qui est aussi peu sûr que Sertic.
Il n'est pas défenseur, il te met
un
milieu devant la défense, il est propre avec le ballon.
Même plus haut, il joue freiné, plus haut à Bordeaux au début.
Mais pas jouer en tant que défense. Moi, je l'aime bien devant la défense.
Au-delà de ça, et juste avant d'accueillir Thomas, supporter de l'Olympique de Marseille, est-ce que finalement, c'est pas le lot de ce genre de match où tu dis tu vas jouer une finale face à Guingamp? C'est déjà une première finale avant celle de l'Europa League et avant celle face à Amiens la semaine prochaine au Stade Vélodrome lors de la 38e journée de Ligue 1. Est-ce que finalement, c'est pas le lot, voilà, de ces équipes en fin de saison qui jouent comme ça des matchs un petit peu
couperés,
finalement, ce genre de match?
Non.
Surtout face à une équipe guingampaise qui, si elle a mis du temps à rentrer dans le match.
Marseille enchaîne match sur match et des matchs couperés. Ça coûte cher les matchs couperés à chaque match comme
et
ça.
Et nerveusement aussi.
C'est fatigant, c'est usant. Et ils ont eu plusieurs matchs dans ce style-là, les Marseillais.
Bien
à
sûr,
chaque fois, ils sont revenus. Mais ça use à force.
Et puis Guingamp était pas mal ce soir.
C'est pas une partenaire, franchement. Alors,
non, mais à ce moment,
contre le 2 contre le PSG, le 3-1 face à Monaco.
Défensivement, ils ont été catastrophiques. Après, hier, comme ça, j'ai parlé un peu avec Clément Grenier. Je disais, est-ce que vous êtes motivé et tout. Le mec, je lui dis, on blessait pas. Il y a une finale. Le mec me dit, écoute, c'est un match super important. C'est hors de question de terminer moins que au-delà de la 10e place. On est super motivé. Du coup, je l'ai mis sur mon petit gazon. Donc, c'est le lot de consolation. Mais ils étaient vraiment dedans. J'entendais en début, j'avais mis la télé, j'avais mis le son de la radio, que certains auditeurs doutaient de l'investissement des Guingampais quand il y avait 2-0 pour Marseille. Bah, franchement, non, ils ont fait leur match. C'est une bonne équipe. C'est une équipe à la Camboiré, c'est-à-dire une équipe qui est pas forcément brillante, mais qui sait ce qu'elle doit faire.
Qui joue
sur ses qualités. Il y a un joueur comme Grenier qui est
clair, il est en train de revenir physiquement, ça fait plaisir.
Qui revient à son bon niveau, qui reprend du rythme, mais qui est quand même un joueur de classe, enfin on va pas
parler
des mots.
Et encore.
Puis c'est une belle équipe. Donc ça c'était pas facile et en plus j'insiste là-dessus, mais tu mènes 2-0 mais t'as quand même tellement d'absents que au final quand tu prends juste le résultat comptable, pas si logique.
Mais malgré ça, Marseille se crée encore énormément d'occasions de but. Hein. Ouais.
C'est ça qu'il faut. Si on doit revenir les bons côtés côté Marseille.
C'est un moment où ils enchaînent, je crois, 8 corners d'affilée. C'était hallucinant.
Et en fin de match,
la défense gagne
en fin de match.
En fin de match à 9. À un moment au bout de ça, effectivement,
si t'as ces 8 corners et t'as à la fois ou Rolando ou Gustavo ou Rami. Non, ou Rami, ils disent ça. Déjà les 3. Bah c'est différent. Sur
t'as des armes offensives potentiellement en plus
si
dans la surface de réparation.
Si t'as l'un des trois, c'est différent.
Il y a Zambo qui a jamais mis un but. Il est même pas si grand, Zambo.
Super
en plus,
technique.
Hein.
Thomas, supporter de l'OM, a fait le 32-16 pour être dans l'after sur RMC BFM Sport. Salut Thomas.
Bonsoir after.
Salut Thomas.
On soulignait un petit peu l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille ce soir et cette force aussi d'avoir su revenir à 3-3. Je crois que c'est ce que tu voulais aussi.
Ouais, alors tout d'abord, merci l'after. Je vous écoute depuis très très longtemps et franchement, merci pour ce que vous faites.
Avec plaisir.
Tout ça. Après l'auditeur d'avant, mais j'ai trouvé, je sais pas moi.
Il est énervé, agacé.
Ouais, mais il n'était pas objectif. Parce
il
que...
en avait après Tovin surtout.
Ouais, mais il en avait contre tout le monde. Et moi, le foot, c'est de l'émotion. Moi, l'OM, elle a commencé la saison très tôt. Le Champions Project, de ma courte, j'y croyais pas. Mais je vois un état d'esprit, mais terrible. Sarr, il a été blessé, il refuse une opération, il rentre, il se blesse, mais il en veut. Mandanda, bon, le pénalty, bon, on n'en reparle pas. Mais en plus, il y a un état d'esprit des clubs
et français. Sakai. Sakai aussi, et Sakai aussi, il a niqué la science, comme ils disent là. Il lui prévoyait, fin de saison, il est là, hein.
Il est là. La plupart des clubs français, quand on se qualifie pour la Coupe d'Europe, on dit on veut jouer l'Europe, et quand ils y sont, ils disent oui, mais l'Europe, c'est fatigant, on joue pas, la priorité, c'est le championnat. Mais dans ce cas, te qualifie pas pour l'Europe.
Mmh, exactement.
Là, cette année, j'ai envie de vous dire, si ça se trouve, on va finir avec 0 titre. On ne finira peut-être pas en C1, mais moi, j'ai vécu de l'émotion. Et moi, le foot, pour moi, c'est de l'émotion.
Ah, je suis d'accord avec toi.
Cette année, cette équipe, elle me fait plaisir.
C'est vrai.
Je suis fier, elle me transporte, et puis c'est ça le foot. C'est ça le foot.
Pour une fois, en fait, on a un auditeur qui te parle pas de statistiques et
qui te
et
parle
de,
d'émotions,
non, de victoires et de classement.
Mais
qu'en fait, ce qui reste à la fin pendant toute cette saison, ça sera pas le classement.
La fierté.
Non.
Ça sera pas le classement. Mais... non, mais pas spécialement la fierté, si... des émotions.
Même si ça, je crois qu'à moitié. Oui, mais c'est vrai que ce soir, on a quand même vécu des émotions.
C'est ça, c'est incontestablement. On va poser la question à notre auditeur, mais l'année de Bielsa, Marseille gagne rien. Marseille finit quatrième.
Tout le monde
s'en rappelle.
Oui, mais enfin bon.
Ouais, mais j'ai vu.
On s'en rappellera longtemps.
J'ai des émotions.
Voilà.
Moi, quand j'ai les comment dire, j'ai la chair de poule. Là, je suis bien. Là, je vois une équipe à ma vie. Ils sauve sur la ligne. Touré marque un doublé. Après, Paganelli dit ouais, bon, salut, ça va, ouais, comme d'hab. Ouais, putain, Flo, tu joues au foot, t'aimes le foot. Ouais, ok. Et l'autre, il te dit non, je suis en colère. Il y a un état d'esprit, quoi. Ouais. Il y a un état d'esprit. Donc moi, c'est pour ça que j'aime le foot, c'est pour ça que je soutiens une équipe. Je veux pas que ce soit, on gagne 50 titres, je veux qu'il y ait un état d'esprit. Ce qui a peut-être manqué au PSG cette année.
C'est ce que nous dit Thomas. Il y a Kikim là qui nous écrit sur le hashtag RMC Live justement sur Twitter et qui nous dit quelle équipe peut s'asseoir à la table de l'OM ce soir et dire on est plus courageux, plus solidaire que vous. C'est vrai qu'on a le sentiment quand même qu'il y a un courage et une solidarité absolument
c'est énorme.
Unique. Absolument unique en Ligue 1.
Le symbole de cette équipe, c'est Lucas Ocampos, quoi. Il revient d'entre les morts. Il était en prêt au Genoa. Ça se passe mal. Du coup, le Genoa, comme ils veulent pas le garder, qu'il fallait pas qu'il joue plus un certain nombre de matchs, il magouille avec le Milan pour l'envoyer en prêt au Milan. Ça se passe mal. Il revient.
On a Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, en conférence de presse à Rodero.
J'ai oublié aussi, de nous aider fortement, on va dire. Donc à 2-1, c'est plus le même match. Puis comme on a oublié aussi de rentrer dans la deuxième période, est arrivé ce qui est arrivé. Après, ce que je déplore, c'est qu'on ait été réduit à 10. Moi, j'ai passé 4 ans en Italie, je savais pas qu'en France, la double peine existait encore. Mais bon, il faut que je me remette à la page, comme on dit. Et du coup, on a pris de la fatigue pour mercredi, mais si on n'a pas gagné, c'est d'abord de notre faute, évidemment.
Alors, Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique.
Il s'est redoussé l'épaule. Ouais, celle de la dernière fois. On sait que ça peut arriver. Donc, je suis pas tout bib. Je ne sais pas.
Visiblement agacé, Rudy Garcia.
C'est 2 points de perdu, clairement, oui. Après, on verra les résultats des autres demain. Mais quand on est chasseur, il faut gagner. Il faut tout gagner. Et ce soir, on n'a pas su gagner. Alors qu'on avait pris le match par le bon bout. Et qu'on avait démontré que on pouvait être performant même avec des absences. Mais on a été rattrapé par nos moments de moins bien, on va dire comme ça pour être gentil.
Rudy Garcia, entraîneur de l'Olympique de Marseille en direct sur RMC BFM
Sport. Les résultats des autres, en tous les cas, on a failli gagner à 9. Donc ça prouve toujours que cette équipe, elle a du cœur, du courage et du talent. Mais parfois, elle oublie aussi de jouer... quelques minutes et en Ligue 1 c'est préjudiciable et en professionnel c'est préjudiciable. Donc voilà. Enfin, qu'on progresse dans cet état de fête.
Voilà, Rudy Garcia en direct sur RMC BFM Sport, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille après le match nul 3 partout en ouverture de la 37e journée de Ligue 1 ce soir. C'est Marseille justement, 3 buts partout sur la pelouse de Guingamp. Alors il y a pas mal de choses qu'on a entendues. D'abord 2 points de perdu quand on est chasseur. Il faut tout gagner, il faut tout aller chercher. Et oui, parce que c'est vrai que l'Olympique de Marseille désormais a un match en plus que ses deux principaux adversaires en Ligue 1 pour le podium, à savoir Lyon et Monaco. Sauf que Marseille, a la différence de but et derrière Monaco troisième et a un point de moins que l'Olympique Lyonnais.
Ça fait un autre point la différence de but.
Voilà, ça fait un point supplémentaire, sachant que si l'Olympique Lyonnais gagne demain à Strasbourg, l'Olympique Lyonnais sera pour le coup certain d'être sur le podium de l'année.
Déjà, combien d'équipes qui jouent la deuxième, troisième place en ne jouant pas avec 4 leaders comme Rolando, Rami, Gustavo, Payet, en allant jouer en ce moment avec le Guingamp de maintenant, peuvent récupérer 2 points. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes, que ça soit Monaco, même le Paris Saint-Germain.
Non, mais c'est
ce qui est déjà un parcours exceptionnel.
Bien sûr. Hein.
74 points inscrits après 37 journées en étant quatrième, c'est assez exceptionnel.
Je suis un peu chafouin sur un truc, c'est que moi j'ai beaucoup critiqué Rudy Garcia l'année dernière quand il est arrivé, donc j'ai fait mon mea culpa parce que c'est vrai ce qu'il fait cette saison c'est extraordinaire. J'ai été le premier surpris de le voir finalement changer de système, se débarrasser de son 4-3-3, tout ça, on l'a déjà dit, mais Il parle toujours de l'arbitrage, c'est un peu agaçant. C'est un petit peu agaçant.
Le débat sur la double peine, justement. Voilà.
Mais
tout à l'heure, le carton rouge de Mandanda.
Écoute, je pense qu'il faut passer à autre chose. Le match est terminé de manière, enfin, c'est un poncif que je vais sortir, mais le match est terminé, ça va rien y changer. Concentre-toi sur ton équipe, concentre-toi sur ta finale, concentre-toi sur ce qu'il y a de positif pour bien motiver tes gars. Et puis voilà, quoi. Enfin,
voilà, ça a rien de...
Tiens, il y a Thomas qui est toujours avec nous.
Et pour Bounassar, ouais. Si il s'est déplacé l'épaule, qu'ils lui ont remis, avec une infiltration, il peut jouer, hein.
C'est un vrai guerrier. Une dernière intervention, après je vous laisse débattre. Vous avez vraiment une bonne émission que j'adore. C'est une dédicace à mon frère Hugo qui est passé hier au Moscato Show. Mmh. Voilà. Une dédicace à Clément, mon pote flicard.
Ah, tu dédicaces pas à tout Marseille, hein, parce que sinon, ça va faire beaucoup. Hein.
Attention. Et enfin, ben, la finale se profile, c'est 70%, 30%. Mais une finale, c'est un match de foot, à Lille, mais des finales, ça se joue. Et quand il y a l'envie, quand il y a la conviction et qu'on se sert comme on se sert, ben.
Tout peut arriver. C'est pas ce que tu dis, Ali.
J'ai dit tout peut arriver, mais ouais, c'est surtout que tout le monde va aider Marseille, c'est surtout ça.
Allez, merci Thomas, en tout cas, supporter de l'Olympique de Marseille, d'avoir fait le 32-16. Un autre supporter, vous êtes nombreux, évidemment, à faire le 32-16.
Guillaume aussi, hein.
Supporter de l'OM, écoute, pour l'instant, on a que des Marseillais. Guillaume est avec nous. Salut Guillaume.
Bonsoir tout le monde. Alors, tous les Guingampais, c'est normal, ils sont dans le stade encore, ils viennent de sortir seulement.
Ouais, c'est la fête, c'était la dernière à Renault cette saison.
C'était match de gala ce soir.
T'as entendu
le stade, il est plus grand que la ville, donc c'est normal.
T'as entendu bon, c'est pas la seule ville d'ailleurs où c'est le cas. T'as entendu le coach Rudy Garcia, qu'est-ce que t'as pensé de son intervention, notamment sur les deux points perdus, du cœur, du courage, a-t-il dit? Il a remis un petit peu en cause certaines décisions arbitrales.
Il a tout à fait raison, parce que même avec 5 de nos joueurs majeurs, la différence entre les deux équipes doit permettre justement de pouvoir gérer un match quand on mène 2-0, parce que la finale est arrivée trop vite dans les têtes. À 2-0, ils se sont dit oh bah c'est bon, c'est réglé, maintenant on gère tranquillement, on met plus les efforts qu'il faut, et on pense qu'au match de mercredi, je pense que ça arrivait un peu tôt dans la tête, dommage. Et ce but juste avant la fin du match, la fin de la première mi-temps, fait mal, et après c'est dur de s'y remettre. Après, quand ils ont remis le coup d'accélérateur, évidemment on a vu que même à 9 on arrive à avoir 8 corners, 5 frappes, et un sauvetage sur la ligne, etc. Parce que justement, même avec des joueurs en moins, par rapport à Guingamp et par rapport surtout sur cette saison, les 4 clubs qui sont en tête du championnat vraiment dominent le championnat, surtout 1 plus 3, on va dire. Donc à un moment donné, il n'a pas manqué grand-chose. Mais c'est vrai que cette finale est arrivée un peu trop vite dans la tête. Donc maintenant, je pense que Monaco ou Lyon, un des deux, gagnera. Donc ça voudra dire qu'on n'a plus qu'une chance hypothétique pour accrocher la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Ça va être compliqué.
Bah, il faut gagner la finale, hein.
Oui, non, bien sûr, non, mais je
et puis le dernier match, tu présentes le trophée au Vélodrome, voilà.
Je vous rappellerai mercredi pour la finale, mais parler que du championnat, là.
T'es chaud déjà?
Moi, c'est, oui, évidemment, là, on attend que ça, là.
Mais,
le problème, c'est revenir encore, et je pense que je serai pas le seul à revenir sur votre premier supporter qui parlait de Thauvin. C'est pas possible de parler de Thauvin comme ça.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on demande à Thauvin? Thauvin, actuellement, c'est le joueur français cette année le plus décisif. Ouais. 23 buts, 12 passes décisives. Et je parle que du championnat.
C'est tout à l'heure, Hérold, qui critiquait un petit peu la performance de Thauvin, qui disait, enfin, vous regardez que les stats, 2 buts et une passe décisive, c'est pas
beaucoup.
C'est pas bien analyser le foot que de raisonner comme ça.
Non, mais c'est la folie. C'est la folie, c'est même la folie.
Ils pèsent sur les défenses, c'est un danger permanent.
On a retrouvé enfin justement le duo Sakai-Thauvin.
Oui. On revoit son but là, son deuxième but là, justement sur BFM Sport.
Vas-y Guillaume, oui, tu disais.
On a un duo Sakai-Thauvin qui est exceptionnel sur la droite. C'est-à-dire qu'il y a deux joueurs qui reviennent de blessure, un depuis 5 matchs, un depuis 1 match, qui reprennent des automatismes. Alors évidemment, si dans le jeu, il veut dire que ils sont pas encore au top tous les deux et qu'ils peuvent pas mettre la misère comme ils la mettent, on va dire, sur la moitié des matchs cette saison, c'est évident, ils reviennent de blessure.
Et Guillaume, je vais ajouter un truc par rapport à ce que tu dis, c'est que sur ce match-là, Thauvin, j'ai trouvé qu'il avait été quand même très bon défensivement, qu'il avait pas mal compensé le manque de forme logique de d'Hiroki Sakai.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que ça, il a été un peu dur et rôle pour Thauvin, le coup.
Donc à un moment donné, pour moi c'est un joueur qui est déjà international, même s'il n'y est pas, et que malheureusement il s'est blessé juste avant le match de la Russie et qu'on n'a pas pu le voir en équipe de France. Mais pour moi c'est un mec qui nous est indispensable en équipe de France.
Ah, bien sûr.
C'est voilà, il y a
dans le groupe, moi, tu vois.
C'est parce qu'il est marseillais qui dit ça. Non, c'est pas ça, parce que je mets 3 Parisiens en milieu de terrain si je dois choisir l'équipe de France. Donc c'est pas que du marseillais, voilà. C'est pas que du supporterisme, mais à un moment donné, c'est un joueur qui est super décisif. Mais oui, c'est là le problème, c'est que les joueurs, ils ont arrêté de jouer à la 25e minute. Il y a eu une ou deux occasions de plus, ils l'ont joué facile. C'est peut-être la première fois que je vois l'OM justement faire ça cette saison. On a toujours eu des crues, mais c'était pas le fait de le jouer facile.
Guillaume, je suis pas d'accord. Ils n'ont pas joué facile.
C'est pas qu'ils ont joué. Ils n'ont pas
dès
les
le début du match.
Ils
étaient fébriles
à 2-0. Parce qu'à 2-0, si tu as un Gustavo, si tu as un Rami,
pour garder le ballon un petit peu. Voilà, pour garder la balle.
Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que il y avait pas de toute façon l'expérience sur le terrain.
Exactement, mais c'est une guerre dès le début du match. Franchement, tu t'as pas senti que derrière c'était ça pouvait passer.
Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avais dit tout à l'heure. Il y avait juste une chose, c'est que je me disais, tiens, un certain type qui me fait flipper au milieu dans défense. Par contre, il a sorti 3-4 ballons de la tête, je disais, ah bah il est bien dans son match, c'est pas mal. Et quand je vois ce qu'il fait sur un mec comme Briand, où on sait qu'il va tout droit, et en plus sur la faute de Mandanda qui prend le pied droit là sous le genou, on voit que Camara il est déjà revenu au moment où Mandanda fait la faute.
En plus.
Donc je me dis que s'il le suit juste,
Il l'enferme avec Camara.
Jimmy Briand, il y a 10 ans, je veux dire, il va tout seul, il se fait pas rattraper, mais c'est Jimmy Briand actuellement. Donc c'est-à-dire que Sertic, en lui mettant la pression, il peut lui faire un mauvais contrôle ou une mauvaise conduite de balle. Une erreur comme ça, évidemment, ça arrive avec aucun des autres défenseurs de l'OM cette saison. Mais bon, ça, voilà, on a les blessés et les suspensions, c'est comme ça.
Merci beaucoup, Guillaume.
J'y crois pour mercredi, par contre. J'y crois pour mercredi. Maintenant, c'est parti, la finale.
Allez, on va parler de cette finale face à l'Atlético Madrid. Merci, Guillaume, supporter de l'OM, d'avoir fait le
32-16. Bonne finale.
Belle soirée à toi et bonne finale, effectivement, en tout cas.
Oui. Dans quel état d'esprit ils sont, d'après toi, la
Marseille? On va en parler dans un instant, Ali.
Non, je vais en parler maintenant.
Mais non, on en parlera dans un instant. On en parlera dans un instant parce que l'after continue jusqu'à minuit en simultané sur RMC, sur BFM Sport, les évaluations. L'état d'esprit, justement, Marseille a-t-il perdu de l'influx? Eh oui, en vue dans cette finale.
Si,
non, c'est pas ça. C'est pas qu'ils ont perdu de l'influx, c'est qu'ils en ont pas gagné.
Ont perdu.
Voilà. Allez, l'after revient dans un instant sur RMC avec Ali Benarbia et Jonathan Macardi. À tout de suite.
RMC, le super football show. Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Arnaud Souk.
23h24, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'after en simultané sur RMC, sur BFM Sport ou même sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image avec Ali Benarbia ce soir et Jonathan Macardi. On revient évidemment en long, en large et en travers sur ce match nul qui justement risque de rester un petit peu en travers de la gorge des Marseillais. 3 partout ce soir sur la pelouse de Rodorou face à Guingamp. C'était le match d'ouverture de la 37e journée de Ligue 1. L'occasion pour moi de vous rappeler que demain soir il y aura un after exceptionnel à partir de 23h et jusqu'à 1h du matin, le débrief de toutes les rencontres de la 37e journée, vous découvrez notamment les affiches.
C'est plaisir.
Paris-Rennes, Montpellier 3, Strasbourg-Lyon, Bordeaux-Toulouse, Nice-Caen, Angers-Nantes, Monaco-Saint-Etienne, Amiens-Metz et Lille-Dijon. Tout ça, c'est demain à partir de 21h sur RMC. On prolongera également l'after le soir de la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético. On va en reparler dans un instant. Il y avait également de la Ligue 2 ce soir. Alors, je vous rappelle les résultats de la 38e et dernière journée de Ligue 2. Pas mal de matchs nuls de partout, notamment entre Châteauroux et Brest, entre Reims et Lille, entre Ajaccio et Niort. Il y a une victoire 3-0 de Nancy face à Orléans. Valenciennes qui est allé s'imposer 4-3 sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. Lens qui a battu Auxerre 2-1. On a la victoire du Havre 2-0 face à Tours. Lorient qui s'est incliné face à Quevilly-Rouen 3-0. 2-1 pour Bourg-en-Bresse face à Sochaux et 2 partout un match nul, tiens, que j'avais oublié, entre Clermont et le Paris FC. Ça fait 4 matchs nuls de but partout. J'ai pas compté le nombre de buts ce soir, mais
C'est Lorient et Clermont les cocus de l'affaire.
C'est Lorient et Clermont effectivement les cocus de l'affaire puisqu'ils sont 7e et 6e. Ça nous donne au classement général. Ajaccio 3e, Le Havre 4e, Brest 5e, Reims est d'ores et déjà champion, Nîmes se retrouve 2e avec 73 points et promu. Alors vous voyez des couleurs à côté d'Ajaccio, Le Havre et Brest si vous nous regardez sur BFM Sport. Ça veut dire que l'AC Ajaccio 3e va jouer un match de barrage. Ça sera le vendredi 18 mai face au vainqueur du play-off entre Le Havre 4e et Brest 5e. Ça, c'est un match qui se jouera le mardi 15 mai à 20h45 au stade Océane. Et donc, le vainqueur de ce Ajaccio face à Le Havre ou Brest jouera des barrages de Ligue 1 aller-retour les 23 et 27 mai face au 18e de Ligue 1. C'est un parcours du combattant quand même, si tu veux aller, en Ligue 1. Ouais. C'est quand même assez.
C'est palpitant. Moi, j'ai hâte de voir ça. Après, franchement, si on a 2 secondes sur la Ligue 2.
Je t'en prie.
Franchement, Lorient et Brest, ils ont loupé le coche, quoi. Parce que Lorient passe totalement à côté de son match. S'ils gagnaient, ils étaient 5e. Brest, ils font un match nul d'une manière, en ouvrant le score un peu contre le cours du jeu, en essayant. Mais, dans le jeu, ils ont été super fébriles. Ouais. Mais c'était un peu chaud, chaud quand même, tu vois. Donc, ils ont eu vraiment de la chance, Brest. Et, Lorient, franchement, quand tu regardes leur saison, le nombre de fois où ils pouvaient basculer du bon côté, où ils se sont pris les pieds dans le tapis, comme ce soir. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Non, mais surtout, le plus gros budget, je crois, du championnat. Lorient, il me semble.
Ouais. Il devait absolument
dire Monté. Ouais. Je disais, j'étais Clermont. Quand j'ai dit Brest, c'était Clermont. Clermont aussi. Clermont, ils gagnaient avec la différence de but. Ils étaient cinquième.
Non, puis toute la saison, ils sont entre la quatrième et la sixième place.
Et ils ont craqué sur la fin. Et là, il suffisait d'une victoire pour se qualifier pour les playoffs.
Allez, retour messieurs sur la Ligue 1 et ce match. Il y a des bons joueurs partout entre eux, Guingamp et l'Olympique de Marseille. Mais j'attends vos évaluations, messieurs. On va passer aux évaluations
du match.
Taulier du match d'abord.
Le taulier. Florent Thauvin.
Ali Bellarabia.
Je vais dire deux. Thauvin et Briand.
L'homme du match.
L'homme du match.
Clément Grenier. Il était étincelant ce soir.
Je dirais pas l'homme du match, mais il a été très très bon. Il est en train de retrouver.
Qui a fait un meilleur match que lui ce soir?
Que Clément Grenier.
Sa prestation a été coruscante de la première à la 90e minute.
Peut-être un petit peu eu de mal à rentrer dans la.
Il était nerveux. Il était nerveux, mais tu sentais qu'il avait envie.
C'est que il veut allier sa technique avec son physique, et le problème c'est que il a pas encore ce fameux physique qu'il avait habituellement, qui lui permettait de
ça
faire
revient,
la
différence. Là, hein. Ça revient.
Mais c'est en train de revenir.
Il bosse beaucoup avec un préparateur physique.
Non, et je pense que il apporte beaucoup. Énormément à cette équipe de
Guingamp. Ouais,
Et puis là, c'est pareil. Il apporte certainement dans le vestiaire, mais statistiquement aussi.
Les trois buts.
Énormément sur son terrain et sur les trois buts. Et sur tous les buts en ce moment de Guingamp. Il est
vraiment. Ils vont pas le garder longtemps.
Le boulet, messieurs.
Ah bah.
Je sais ce que tu vas répondre, mais.
Greg Zerti.
Oui, c'est une année.
J'ai vu même Lopez disparaître complètement.
Ouais, Lopez, c'est Fantomas ce soir.
Ouais.
Mais j'ai pas de Fantomas dans mon évaluation. Non, j'ai un Kikaré si vous voulez.
Non, on va dire éboulé les deux défenses, pourquoi pas. Parce que.
Qui?
Les deux défenses. Parce que même la défense de Guingamp, on se contredise à 9. Même à 9, ils se sont fait bouger.
Ouais.
Quand même, il y a un problème quand même à 9. C'est-à-dire qu'en général, avant, on disait, ouais, Sorbonne, Cabrat, c'est costaud. Mais alors là, ça a explosé de partout. Hein.
Je vous autorise un petit Casper, messieurs.
Bah, Max Lopez. Hein.
Max Lopez.
Ça m'embête de le dire, mais
moi j'en veux Anguissa parce que je pense que Rudy Garcia voulait qu'Anguissa un petit peu protège.
Ouais.
Et il a voulu nous faire du non, moi je suis un super joueur techniquement.
Il a pas assuré cette sécurité à sa
donc,
défense.
Je mets Anguissa.
En fait, Anguissa je le mettrais plutôt boulet et Sertic pied carré.
Bon, ouais. Sertic pied carré Ali pour conclure. Et après on passe à la finale d'Europa League.
Ouais, Sertic.
Bon, on intervertit Anguissa et Sertic. Ouais.
Allez messieurs, c'est la question que je vous posais juste avant de faire une petite pause dans l'after, Jonathan et Ali. Est-ce que l'OM a quand même pas perdu plus que 2 points ce soir? Est-ce que tu perds pas un influx nerveux? Est-ce que encaisses pas une fatigue énorme? Alors, ce sont des professionnels, ce sont des grands garçons, ils vont avoir 5 jours pour se remettre. La finale c'est mercredi 20h45 face à l'Atlético, on le rappelle. Mais est-ce qu'ils ont quand même perdu beaucoup de...
Ils ont perdu de l'influx. Ils ont perdu ce qui se passe en ce moment. Hein, ça leur fait du bien. Pas tout perdu, un petit peu. Et le fait que par contre ces joueurs-là, ces leaders n'aient pas joué, eux n'ont pas perdu ça par contre. Donc la finale, quand ils vont revenir, les Rami, Rolando, Gustavo, Payet, ils vont leur amener ce qu'attendent les autres, un petit peu ce qu'ils n'ont pas eu contre Guingamp.
Je pense que l'objectif de mercredi est tellement grand.
Puis c'est pas
l'histoire
le même.
Peut être tellement belle.
C'est pas
ça
le
peut
même.
Être tellement c'est fabuleux. Ils peuvent écrire l'histoire de l'Olympique de Marseille que voilà, ils vont se coucher énervés ce soir. Et je pense que demain ils seront tous concentrés sur la finale. Après, je pense que Rudy Garcia va savoir trouver les mots pour vite effacer la déception de ce soir. Donc je me fais vraiment pas de soucis là-dessus.
Je me posais la question aussi, est-ce qu'on peut vraiment considérer que ce match soit rassurant, ou est-ce qu'il faut vraiment le mettre, rassurant ou pas d'ailleurs, rassurant ou inquiétant, ou est-ce qu'il faut vraiment le mettre de côté, ça n'aura rien à voir avec ce qui va se passer.
La colonne vertébrale.
Ouais. Parce qu'habituellement, ils jouent comme ça. Marseille, on le voit souvent, ils se créent des occasions, ils marquent des buts. Mais par contre, quand t'as c'est ce qu'on dit souvent, hein. Quand tu as le leader qui arrive à façonner ses temps morts et ses très bons temps de l'adversaire pour les freiner, allez, garder un peu la balle, faire des fautes, ce que fait très bien Gustavo. Rami qui dégage un petit peu, qui fait monter sa défense, que n'a jamais fait.
Payet
fait
qui garde le ballon, qui casse la différence, un peu
qui apporte énormément des coups francs sur lui, qui permet de rester toujours très haut. C'est énorme la différence entre ces quatre joueurs.
C'est trois joueurs qui sont ta colonne vertébrale.
Tu
as ton leader défensif, offensif, et t'as le mec qui fait que ton équipe est équilibrée. Donc
avec deux joueurs sur les quatre ce soir, tu le gagnes le match.
On va accueillir Laurent, supporter de l'Olympique de Marseille, qui a fait le 32-16. Salut Laurent.
Bonsoir messieurs.
Salut Laurent.
Alors cette finale de l'Europa League.
Je peux parler quand même.
Pardon ?
J'ai pas mes skis, je peux parler ou pas?
Ah, vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai les miens. Enfin, pas ici, hein. Ils sont chez moi.
Exceptionnel si vous faites à ski quand même, hein. Mais dangereux.
Ils sont toujours en état de marche maintenant.
Mais ils sont toujours en état de marche. Bah, à Paris, à 2h du matin, quand il neige, ça fait très bien ski, hein. Ça pose aucun souci. Je t'en prie, Laurent, vas-y.
Ce soir, bah oui, déception pour faire une petite aparté. Le stade de Reims, c'est quand même, parce que c'est mon autre club. Le stade de Reims, c'est quand même en Ligue 1, donc bravo le stade. Et pour revenir, ce que vous disiez sur la journée de championnat, bon, je pense que aller à Jacques Taest, quoi. Les dés sont jetés, on a joué, maintenant c'est aux autres de jouer, on verra après, on s'en fiche. Maintenant, on va se concentrer sur mercredi. Et il y a une autre phrase que j'ai envie de vous dire, c'est on craint des gains, quoi. À Marseille, on craint des gains, on a pas peur.
Tu l'as bien dit avec l'accent.
On n'a pas peur. Non, je vais pas le prendre, je l'ai pas l'accent, donc.
Tu l'as un petit peu pris, Laurent, c'était assez mignon.
T'as essayé, ouais,
le mot incite voilà, à prendre l'accent des gains.
On craint des gains.
On n'a pas peur, quoi. On craint des gains. Des gains à Marseille, ça veut dire on a peur de rien. Donc voilà, donc on va y aller et maintenant c'est tout. Moi en fait j'ai apprécié le match de Grenier comme vous l'avez dit, le match de Briand, mais eux mercredi ils jouent pas.
Ah non, exactement. Ah non,
hein. Ils sont Lyon mercredi ils jouent pas. Paris mercredi ils jouent pas. Il y a Atlético et Marseille qui jouent.
Est-ce que t'as été
Madrid ils jouent pas mercredi.
Est-ce que tu peux avoir une tendance à l'inquiétude
mercredi. Non.
Est-ce que tu peux avoir une tendance à l'inquiétude après ce match nul ce soir 3 partout? Est-ce que tu te dis justement que dans la gestion, Marseille a pas toujours été exemplaire, qu'il y a eu pas mal de fébrilité, ou tu te dis au contraire, bah justement, comme disait Jonathan, il y a Luis Gustavo qui va revenir notamment au milieu de terrain et que ça va un petit peu tout changer?
Écoutez, à 2-0, j'ai exulté. J'étais avec des amis, en fait, ils m'ont rabroué, et du coup, on s'est fait remonter 2-2. Après, on perd 3-2. Je rentre chez moi, furax. Je regarde la fin sur mon portable et je vois que Thauvin il égalise 3-3. On est 9. On a, 7 corners. On gagne pas le match. On gagne pas le match. Dommage. On aurait pu le gagner. Maintenant, comme l'a dit Rudy, on tourne la page. Ce qui est fait est fait. Maintenant, on se concentre sur mercredi. Moi, je vous dis, mercredi, Jean-Michel, on va tout casser, t'avais rien compris, en fait. Toi, tu comprends pas le second degré. Il y a un Stéphanois, il lui a offert une PlayStation, il a cru que c'était une bombe. Non, mais souvenez-vous, hein, c'est pas il y a si longtemps.
Il a pas cru que c'était une bombe,
quand les Marseillais, ils disent, on va tout casser chez toi, ça veut dire, on va gagner le match.
Oui, oui.
Bah, il a passé une bonne soirée, Laurent, en tout cas.
Tenons-nous.
On va mettre l'ambiance, on va faire tout ça. Là, c'est bien. En fait, c'est un signe. C'est vraiment, je sais pas si c'est le sort que ça soit deux anciens Lyonnais qui marquent avec un entraîneur parisien.
Mais on c'est vrai que c'est amusant quand même quand tu
réfléchis. C'est-à-dire que là, soit tout s'aligne pour nous, soit demain, on sait jamais, demain ils peuvent perdre Lyon et Monaco.
Surtout que c'est des matchs compliqués, hein. Lyon se déplace à Strasbourg qui doit jouer quand même sa survie.
Oui, enfin qui met plus un pied devant l'autre,
et Monaco reçoit Saint-Etienne.
Voilà. Moi, ça, c'est une belle affiche. Mais par rapport à mercredi, moi tout ce que je sais, c'est que Lyon, mercredi, il joue pas. Et Monaco,
c'est un très haut niveau d'analyse.
T'as passé une très bonne soirée,
j'ai l'impression.
C'est déjà pas mal.
Oui, je vais essayer, je vais en passer une super bonne. Je vous rappelle mercredi.
Merci Laurent, supporter moderne de Marseille.
Beaucoup d'équipes qui jouent mercredi.
Il y aura pas grand monde qui jouera mercredi. Alors, messieurs, deux infos capitales, je sais pas, en tout cas importantes.
Alors, tu vas dire quoi?
L'épaule de Sarr, c'est ça?
Non, pas du tout.
Non, c'est pas ça.
Je n'ai pas d'informations sur l'épaule de Sarr pour l'instant. Je vous en donnerai dès que j'en aurai. Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui ne compte pas faire tourner demain, justement, face à Retafe, match de championnat face au 8e. Il a dit concrètement, il veut aussi cadenasser sa deuxième place en championnat d'Espagne. Il ne compte pas faire tourner.
Oui, là, ça fait tourner.
Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan?
Quand tu vois le banc de l'Atlético, je vais te dire,
franchement, c'est ça. Et quand je vois la richesse de l'effectif,
j'ai vu Costa, Torres sur le banc, Vitolo sur le banc.
Je trouve ça un peu anecdotique.
C'est peut-être anecdotique, mais en tout cas, c'est une information que je me devais de vous donner.
Merci, monsieur.
Tout comme le fait que Simeone ne sera pas sur le banc justement de l'Atlético.
Il fait tourner lui aussi.
Appel rejeté. Il sera donc bien suspendu pour la finale et ça va donc tourner sur le banc.
Et ça, tu sais quoi? Je pense que ça peut jouer, ça, par contre, sur le banc.
Ça peut jouer.
Parce que tu sais, Rudy Garcia, il a une tendance à être un petit peu nerveux aussi, parfois salpaguer, un petit peu se chauffer. Alors surtout quand il était en Italie, j'ai quelques souvenirs en Italie, ouais, il était un peu chaud avec les entraîneurs. Et je pense que Diego Simeone, une de ses forces, c'est qu'il fait un peu péter des boulons aux entraîneurs qui se retrouvent à côté de lui dans leur zone technique. Donc je pense que s'il est un petit peu en tribune là,
il sera avec Colas.
C'est un petit peu mieux. Je pense que c'est un
Simeone,
peu mieux.
Il sera avec Colas.
Ouais.
Il va faire péter les plans. Juste.
Mais c'est important,
messieurs, par rapport à cette équipe de l'Atlético, tu l'as dit, qui a sans doute une force de caractère exceptionnelle, qui a aussi une profondeur de vent exceptionnelle. Je suis désolé d'en revenir à ça, mais est-ce que cette fébrilité qu'on a vue ce soir chez les Marseillais, même si très bien, il y a quatre cadres majeurs qui manquaient visiblement à cette équipe au coup d'envoi suspendu ou blessé ou forfait de dernière minute. Est-ce que finalement tu te dis pas que face à l'Atlético il pourrait se passer aussi la même chose à un moment, c'est-à-dire que
oui mais on attend Arnaud, depuis le début de la saison, une des forces de l'OM c'est pas d'être une équipe qui est très solide défensivement. Ça on l'a tous vu, il y a toujours eu quelques petits réglages à effectuer. Après je pense que tu vois, pour en revenir au match de Salzbourg, moi après le match la qualification, j'avais pas envie de parler du match, j'avais juste envie d'être content et de se concentrer sur le bonheur et la joie de voir un club français, en l'occurrence l'OM, en finale. Je pense que sur ce match-là, si on regarde, l'OM a été très fébrile, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense aussi que Garcia s'est un petit peu trompé dans sa compo d'équipe. Bon, je rappelle la compo, hein, il joue à 4 derrière avec Sanson et Max Lopez au milieu, ce qui t'assure pas forcément beaucoup de garanties en termes de sécurité de sécurité défensive. Je pense qu'il fera pas la même erreur. Je pense qu'on risque de voir une belle défense à 5 avec soit Hiroki Sakai si Bounassar est remis, qui jouera axe droit, soit il y aura Rolando avec Rami et Luis Gustavo derrière, ou même le petit Bouba Camara qui pourra tenir son rôle. Bref, je pense que ça va jouer à 5. Et à 5, je trouve que l'OM est une équipe qui présente un autre visage et qui a le profil pour un petit peu emmerder l'Atlético. Alors l'Atlético, il n'y a pas de problème, hein, c'est une équipe qui est super forte de partout. Défensivement, ils sont bons. Derrière, ils sont bons. Mais c'est une équipe qui n'aime pas faire le jeu. Alors je pense que tu vois, si tu leur laisses un petit peu le ballon, que tu joues à 5 derrière et que tu joues, t'essayes de les prendre sur la vitesse, sur la grinta, et ce genre de choses, je pense qu'on peut se laisser une petite chance. Voilà. Mais après il y aura des retours, et pour répondre précisément à la question que tu posais, quand même t'as ton axe entier défensif qui n'est pas là, ton milieu, ta sentinelle et tes deux défenseurs centraux, donc prendre ce match là comme référence, j'ai un peu du mal.
C'est pas pour le prendre pour référence, c'est juste pour poser une question de savoir si ça peut pas jouer dans les têtes. Voilà, tout simplement.
Je pense pas,
le mot de la fin, Ali.
Je pense pas, dans le sens où Marseille, tout le monde dit 50, 60, on a affaire à une grosse équipe, l'Atlético Madrid, avec que des internationaux. C'est pas pour parler de Marseille en bien ou en mal, hein. C'est pas le Marseille d'il y a un certain temps où il y avait que du lourd devant. Attends, faut pas non plus exagérer. Là, c'est pas la même chose. Et on a la chance d'avoir récupéré Gustavo. On a eu cette chance-là, Marseille, de récupérer Gustavo, faut le dire. Mais quand tu vois cette équipe de l'Atlético Madrid, en se disant qu'ils font le jeu ou pas le jeu, mais c'est énorme à tous les postes. Tu vois le monde qu'il y a au milieu, derrière, le gardien de but, je parle même pas du gardien de but. On dit qu'on nous, on a Mandanda, qui est énorme comme gardien.
Ils ont le meilleur gardien du monde, hein.
Mais là, en ce moment.
C'est le meilleur du monde.
C'est énorme. Blessé,
donc c'est au Black.
Quand tu prends la défense et que t'as des joueurs comme Godin dans l'axe, tu te poses même plus la question.
C'est un monstre, Godin.
Et quand tu as sur le banc, Vitolo, j'ai vu Torres, j'ai vu même un Costa, même jouer sur le banc. Mais tu te poses la question, mais qui joue titulaire? Au milieu de terrain, tu as
Vitolo,
des internationaux titulaires de l'équipe nationale pratiquement. Et tu prends Koke et Saúl Ñíguez, c'est titulaire en équipe nationale pratiquement pour la Coupe du Monde. Koke et Saúl Ñíguez, c'est les titulaires qui vont être en... Koke va pas jouer.
En tout cas, ce seront des joueurs qui risquent de compter.
C'est le prochain.
Dans l'effectif.
Pour un beau bout de temps.
Dans l'effectif de l'Atlético. Finale à 20h45. Ce sera mercredi entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético. Finale de l'Europa League. D'ailleurs, la semaine prochaine, spéciale finale de cette Europa League. Toute la Dream Team Foot de RMC et BFM Sport sera sur le pont avec des invités exceptionnels dans Team Duga, notamment de 18h à 20h sur RMC. Fabien Barthez, vainqueur de la Ligue des Champions en 93. Et finaliste de cette Europa League, qui avait fait une mandanda d'ailleurs à l'époque, puisqu'il avait il avait fait une petite sortie, Pierluigi Collina l'avait expulsé, ça avait permis à Valence à l'époque de marquer
d'ouvrir la marque,
et c'était la double peine aussi à l'époque,
changer le cours
d'expulsion et pénalty,
alors que l'OM était bien dans sa finale avant l'expulsion.
C'est Stéphane pour et en tout cas la première finale,
et en tout cas Fabien Barthez sera l'invité exceptionnel de Team Duga. Ce sera lundi entre 18h et 20h. Dans un instant, on va vous donner quelques petites nouvelles aussi, des petites infos sur le Paris Saint-Germain, puis on va revenir aussi un petit peu en détail sur la 38e et dernière journée de Ligue 2. A tout de suite dans l'After sur RMC BFM Sport.
RMC, le Super Football Show. Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Arnaud Souk.
La dernière ligne droite de l'after sur RMC en simultané sur BFM sur RMCsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. Le son et l'image de Non c'est pas ça, Ali Benarbia. Et le son et l'image également de Jonathan McCarthy. Messieurs, je vous propose qu'on se replonge sur la 38e soirée, la 38e journée de Ligue 2. Ça y est, l'épilogue de cette Ligue 2, c'est terminé. S'il reste une journée en Ligue 1, c'est donc terminé en Ligue 2. Je vous redonne les résultats. Deux partout entre Châteauroux et Brest. 4-3 pour Valenciennes sur la pelouse du Gazélec. 2-1, ça c'est la victoire de Lens face à Auxerre. Clermont et le Paris FC ont fait match nul 2 partout. Bourg-en-Bresse a battu Sochaux 2-1. Quevilly-Rouen a battu Lorient 3-0. Reims et Nîmes se sont séparés sur un match nul 2 partout. Pareil entre Ajaccio et Niort. Le Havre a battu 2-0. L'équipe de Tours, ça nous donne au classement général. Ajaccio 3e, 4e Le Havre, Brest 5e. Le Havre et Brest s'affronteront en play-off. Et le vainqueur de ce play-off rencontrera Ajaccio. Le vainqueur de ce match entre Ajaccio et le vainqueur du play-off rencontrera en match aller-retour le 18e de Ligue 1 pour tenter d'accéder à l'élite. Lui a sauvé en partie son club justement d'une descente en nationale ou d'un barrage face au 3e de national, en l'occurrence Grenoble. Il y a d'ailleurs eu des incidents et des envahissements de terrain à Grenoble assez importants ce soir, puisque les joueurs de Sanois Saint-Gratien qui se sont imposés 3-2 justement sur la pelouse de Grenoble ont été visés par des supporters qui ont envahi la pelouse. Il y a eu des fumigènes lancés et des coups qui ont été échangés entre les joueurs et les supporters. Voilà, vous découvrez les images si vous nous regardez sur BFM Sport, des débordements qui ont contraint la CRS à intervenir. Les forces de l'ordre ont pénétré sur la pelouse, permettant aux joueurs notamment de regagner le vestiaire. Je vous disais, lui a notamment empêché Nancy de devoir jouer un barrage face à Grenoble. Victoire 3-0 de Nancy ce soir face à Orléans. On est en ligne avec un néo-retraité. Bonsoir Youssouf Hadji.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être, avec nous. Alors, je sais pas ce qui prédomine chez vous ce soir, l'émotion de ce dernier match finalement où vous avez marqué d'ailleurs le premier but, ou avant tout le fait que Nancy se maintienne de manière claire et nette en Ligue 2.
Oui, surtout le fait que Nancy se maintienne en Ligue 2, parce que voilà, ça aurait fait tâche de finir là-dessus. Donc voilà, là sincèrement fier d'avoir accompli la mission, même si ça a été très très difficile, une saison vraiment très éprouvante.
Une saison très éprouvante, Ali. Je sais pas, tu voulais poser une question.
Oui, salut Youssouf. Déjà félicitations pour ta carrière.
Merci beaucoup.
Et sincèrement, je suis vraiment contente qu'elle se termine comme ça, parce que terminer ta carrière sur une descente avec ton club de cœur, ça, je pense que tu l'aurais gardé toute ta vie, et que tu marques et que ça se termine comme ça, c'est super pour toi. Je suis contente déjà d'une pour toi.
Merci beaucoup.
Et est-ce que tu penses rester au club, parce que c'est vraiment ton club de cœur, travailler avec le club au niveau du dispositif technique?
Oui, j'aimerais bien. C'est sûr que voilà, c'est vraiment mon club de cœur qui m'a tout donné. Et comme tu disais, voilà, pour moi, c'était vraiment important de laisser ce club-là en Ligue 2, et parce que voilà, on sait que Nancy fait les allers-retours en Ligue 1, Ligue 2, mais voilà, on a fait des super saisons en Ligue 1, et voir ce club tomber en National, ça aurait été vraiment moche pour moi. Donc donc voilà, après c'est vrai, pourquoi pas travailler ici, mais c'est vrai qu'avant tout il me faut un peu des bagages pour que je me forme et pour être crédible derrière.
Ouais. Après 20 ans passés sur le terrain, la page est difficile à tourner. 20 ans dont de très nombreuses saisons justement en première ou en deuxième division avec l'AS Nancy-Lorraine. C'est une page compliquée à tourner, ça a été une décision très dure à prendre.
Non, sincèrement, non, parce que voilà, j'ai quand même 38 ans et voilà, j'ai vraiment poussé jusqu'au bout. J'ai pris tellement de plaisir, et là, ça s'est vraiment fait naturellement. Donc voilà, je vais vraiment maintenant pouvoir me reposer, continuer à profiter de ma famille. Mais voilà, ça a pas été si compliqué ça de tourner la page. Maintenant, c'est ce que je vais faire et voilà, et surtout que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une belle fin quand même, avec un but, une victoire et sans blessure, comme je disais.
Youssouf Hadji, l'attaquant, le capitaine de Nancy international marocain, est avec nous en direct sur AM, c'est Jonathan de question.
Bonsoir Youssouf, déjà félicitations. Bonsoir. Pour votre carrière et pour qui a été une très belle carrière. J'ai deux questions, un petit peu bilan. Quel est votre meilleur souvenir avec l'AS Nancy Lorraine, votre plus grand regret? J'ai peut-être une petite idée pour le regret, mais je vous laisse répondre.
Ouais, voilà. Non, pour les meilleurs souvenirs, c'est ces fameux matchs au stade Vélodrome. Donc, comme je disais, un petit club comme nous, une petite équipe, on faisait peur à un club, une équipe, mythique. Donc voilà, ça se passait toujours bien. C'est pour ça que voilà, c'est les meilleurs souvenirs que je vais garder. Après, forcément, le mauvais souvenir, le pire, on va dire, c'est cette fameuse quatrième place sur la dernière journée.
Avec le scénario de dingue.
Voilà, tout à fait, j'avais pas joué ce dernier match. Mais voilà, malgré tout, super saison et je pense qu'il a marqué tellement de supporters.
On s'en rappelle encore, hein.
Nancy qui avait terminé quatrième de Ligue 1. C'est en quelle saison
C'était 2008
Ouais, c'était 2008-2009.
2008-2009, et Nancy, je crois que vous perdez le dernier match. C'est votre seule défaite de la saison à domicile, c'est ça?
Tout à fait.
Et ouais, Marseille, dans un match de fou, gagne 4-3 au Vélodrome contre Strasbourg, mais c'est chaud tout match.
Voilà, exactement, c'est ça.
Et Youssouf fait une saison étincelante cette année-là.
Voilà.
Et il est annoncé à l'Olympique de Marseille, et finalement, j'ai l'impression que c'était juste une rumeur, ou il y avait des vrais contacts?
Non, il y a eu des contacts, et malheureusement, ça s'était pas fait, mais voilà, parce que c'est un club que j'ai toujours aimé, mais malheureusement, voilà, ça s'est pas fait, et voilà, j'ai vécu une belle aventure ici à Nancy après, avec Rennes aussi, donc voilà, aucun regret.
Est-ce qu'il y a un rapprochement avec le staff technique ou l'équipe nationale du Maroc pour la Coupe du Monde ça va être surtout l'équipe de Nancy?
Sincèrement, au Maroc, s'ils ont besoin de moi aussi, parce que il y a un super travail qui est fait de Nasser Larguet. Mmh. Il fait vraiment des super choses, qui fait évoluer, qui faut évoluer les choses, qui fait un travail énorme, remarquable, sans compter le travail de l'équipe A avec Renard et un certain Mustapha Hadji aussi.
Exactement.
Donc non, sincèrement, s'ils ont besoin de moi, oui, ça sera avec plaisir. J'ai toujours été fier de porter ce maillot, et voilà, si je peux rendre service.
Une quinzaine de buts en sélection, c'est ça?
Pardon?
Une quinzaine de buts en sélection, Youssouf,
oui,
c'est ça?
Oui, voilà, exactement, ouais. Donc,
vous imaginez
des bons souvenirs.
Vous imaginez, Youssouf Hadji, le Maroc aller loin justement dans cette Coupe du Monde qui se profile avec un groupe, avec des voisins d'ailleurs, l'Espagne et le Portugal.
Oui, on a que des derbies, donc je pense que sincèrement on peut créer la surprise. D'ailleurs, on m'avait demandé, j'ai la première équipe que j'ai dit, c'est le Maroc, parce que sincèrement, quand je vois les qualifs qu'on a pu faire, on est vraiment monté en puissance.
Et puis t'es un entraîneur de coup,
je pense qu'on peut vraiment, exactement. Donc je pense qu'avec Hervé Renard, on peut vraiment faire de belles choses et faire vraiment créer une grosse surprise.
Bon. Ouais, et c'est vrai que cette équipe a emmagasiné l'expérience parce qu'elle a eu des échecs. Mmh. Et je pense que par tous ces échecs maintenant, je pense que cette équipe, elle a la maturité et elle est prête à aller au combat.
Mmh. Une toute dernière question, Youssouf Hadji. Bon, vous ne regretterez pas de ne pas avoir battu le record de Michel Platini au nombre de buts marqués à l'AS Nancy?
Non, il faut que chacun reste à sa place.
91.
Michel Platini, c'est le boss, et voilà, déjà, je suis arrivé deuxième, donc déjà je suis devant des légendes du football nancéen, donc déjà c'est vraiment un honneur pour moi.
Combien, Youssouf, 91 ou 92 de buts? Vous en êtes à combien de buts? 91, 92?
Sincèrement, je sais même plus.
Je crois que c'est 91.
Je crois que c'est 91. Ouais. Avec l'AS Nancy Lorraine. Voilà. Merci beaucoup, Youssouf Hadji.
Merci à vous.
Merci, Youssouf.
Voilà. Bonne soirée à tous.
Ça va faire bizarre de vous voir l'année prochaine.
Ça roule.
Bonne soirée, Youssouf Hadji, donc le joueur, l'attaquant international marocain de l'AS Nancy Lorraine.
C'était classe.
Qui a pris ce soir sa retraite, qui a disputé son dernier match. Victoire 3-0 de Nancy face à Orléans.
Et il marque un but
avec le premier but.
Un putain de beau joueur.
Justement par Youssouf Hadji. Tiens, il y a un joueur qui a battu un record d'ailleurs ce soir aussi du nombre de buts marqués avec son club. C'est Jimmy Briand, qui a marqué son 30e but ce soir avec
Gabon. Ah oui, il a dépassé dépassé Stéphane Carnot.
Il a dépassé absolument Stéphane Carnot. Des infos PSG, je vous avais promis. Alors, notamment
qui est le coach,
l'attaquant brésilien Neymar, qui a reconnu avoir peur à l'idée de retrouver le terrain après sa blessure à un pied qu'il a tenu à l'écart depuis la fin février.
C'est normal.
Bon, il dit tout se passe bien. Mais voilà, il a quand même une appréhension en vue de la Coupe du Monde. C'est quand même étonnant.
Pourquoi? Parce que c'est ridicule.
C'est normal.
Mais c'est d'un ridicule sans nom, quoi. T'es joueur de football, les blessures, c'est meilleur joueur de la planète. Ta vie, faut arrêter ces conneries. Non, mais ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. La première des choses à faire quand tu te blesses, c'est de vite y retourner. Moi, toutes les fois, je me suis fait casser le nez à la boxe, je suis retourné dès que j'étais fit, quoi, et sans avoir peur.
Mais si t'as peur de blesser, c'est pas la
peine. J'ai l'impression que c'est faux tellement c'est ridicule.
Non, c'est pas.
Écoute, moi, je lis le papier de l'Agence France-Presse.
Mais c'est pas musculaire. C'est pas, je sais pas moi, le métatarse, il suffit quand t'écrases un pied ou quoi, dans ta tête, c'est rebelote.
C'est pas une entorse de la cheville,
Jonathan, attention.
Mais c'est quand même ridicule. Ali, ça t'est arrivé d'avoir des fractures?
Au pied, non.
Ok.
Je
pense pas que t'aurais eu peur de retourner sur le terrain après, hein.
Mais si tu as peur, dans le sens où vaut mieux prendre un gros coup ou une entorse à cheville et tu reviens que d'avoir une fracture du métatarse. Tu sais pourquoi? Bah oui, parce que on n'arrête pas de voir des écrasements de pieds maintenant, c'est devenu la mode. Et quand tu as une fracture, un écrasement de pied, quand tu reprends,
oui, mais
il reprend pas au bout de cet certain temps.
Ali, si c'est consolidé, on n'est pas médecin, mais non, on n'est pas non plus.
Il parle de l'impression de.
Oui, d'avoir l'impression peur, de.
C'est normal. Et le jour où il prend un coup et il a rien, eh ben ça y est, il oubliera.
C'est pas le premier truc qu'on vous dit justement, la peur de la blessure, c'est là où tu te blesses. C'est pas la première chose qu'on a dit aux joueurs ce soir qui étaient sur la pelouse pour
le fait de dire une chose. Non mais dire une chose, c'est bien sûr que tu l'acceptes, mais ça reste dans la tête.
C'est vrai que Daniel Alves ne jouera pas la Coupe du Monde.
Mais voilà,
c'est bien pour le Brésil.
Le joueur du Paris Saint-Germain,
c'est très bien pour le Brésil.
Je suis pas sûr. Pourquoi bien pour le Brésil?
Vu sa performance, vu sa saison, je pense que il était important dans le vestiaire. Mais je pense que Tite a des solutions.
Niveau l'expérience d'une Coupe du Monde, Jonathan, quand tu veux la gagner?
Le Brésil a assez d'expérience à chaque ligne.
Ils n'ont pas de ce poste derrière droit, ils n'ont pas de joueurs d'expérience à ce poste.
Oui, mais dans l'équipe en général, écoute, franchement, Daniel Alves, on est plus à la fin de l'histoire qu'autre chose, hein.
Non, mais à gauche, je dirais pas le contraire parce que Sandro peut pallier l'absence de Marcelo. Mais à droite, Danilo n'est pas au niveau pour jouer, je parle bien pour la gagner, la Coupe du Monde. Je dis pas pour la jouer.
Bon, allez, pour terminer avec les infos, les petites infos autour du Paris Saint-Germain, sachez qu'ils porteront leur nouveau maillot demain face à Rennes.
Ah oui,
c'est quand même le nouveau maillot d'OM et le nouveau maillot du PSG, je les trouve dégueulasses.
C'est le maillot numéro 1.
On n'a pas le temps de deuxième ou troisième. Quelle couleur? J'ai pas l'info.
Non,
c'est
le maillot bleu avec le bleu un peu foncé, rouge un petit peu foncé, mais avec une espèce de comme des
zigzags.
Ouais, de zigzags.
Ah, comme ils ont sur les survêtements en ce moment.
J'ai pas trouvé ça très heureux.
Messieurs, on aura le temps de disserter sur les maillots. Je vous rappelle juste le programme rapidement de la 37e journée de Ligue 1 demain. Après le match nul 3 partout entre Guingamp et Marseille, Strasbourg affrontera Lyon, Monaco recevra Saint-Étienne. Le PSG sera donc opposé à Rennes. Nice, Caen, Montpellier, 3, Bordeaux, Toulouse, Lille, Dijon, Angers, Nantes, Amiens, Metz. Toutes ces rencontres, vous pourrez bien évidemment les suivre dans une grande soirée de football à partir de 20h pour les présentations et à partir de 21h pour le jeu. Ça sera en direct sur RMC et puis after spécial justement jusqu'à 1h du matin demain. Vous récupérez Nicolas Villas. Voilà. Merci messieurs. Parce que moi je vais pas faire toute la nuit.
Mais pourquoi?
Parce que je serai à l'antenne à partir de la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Merci Ali Benarbia.
C'était un bon intérim.
Merci. C'est bien, Macardi. Très bonne soirée à tous. À l'écoute des RMC ou avec votre télé sur BFM Sport.
Toujours à
2 minutes.
Voilà. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.